Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie-Claire Matout, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini pour parler de la consolation. Jacques Attali, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Nos auditeurs vous connaissent bien. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir déjà dans l'émission Des Racines du Ciel. Et en plus de tout ce que vous faites, vous êtes également coproducteur depuis 7 ans sur France Culture de l'émission Le Sens des Choses avec Stéphanie Bonvicini. Bonjour.
Bonjour.
Qui est journaliste. Et vous avez publié ensemble un livre, un très beau livre qui s'appelle La Consolation aux éditions Naïve et France Culture. Alors, Stéphanie, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Comment il s'est fait à partir d'émissions de France Culture?
Nous avons fait une émission sur la consolation sur France Culture, une série de 10 émissions. Et on a eu envie de prolonger les très beaux moments qu'on a passés avec nos invités au cours d'un livre qu'on a voulu complet, c'est-à-dire qu'on a repris une partie des émissions qu'on avait faites pour France Culture. Il y a donc un CD dans ce livre. Jacques a écrit un très bel essai en début du livre. Et ensuite, on est allé retrouver tous nos invités pour les interroger individuellement, pour les interviewer plutôt que les interroger, pour les interviewer individuellement sur la consolation, sur des choses qu'ils n'avaient pas dites ou pas eu le temps de dire ou peut-être pas réussi à dire durant les émissions.
Donc c'est un livre qui se présente, donc il y a un CD comme vous l'avez dit, on entend les émissions de radio et puis vous avez tous ces entretiens avec des invités, je donne que quelques noms parce qu'on en reparlera de toute façon au cours de l'émission, comme Mathieu Ricard, Laure Adler, Philippe Grimbert, Marie de Henzel, Boris Cyrulnik, Samuel Pizard, donc on voit une grande diversité, il y en a une quinzaine, une vingtaine.
Il y a 17 entretiens, des religieux, des psychologues, des écrivains, des accompagnants en soins palliatifs, des bénévoles d'associations. On a voulu interviewer plusieurs personnes dans différents domaines.
Jacques Attali, vous avez effectivement signé un très bel essai au début du livre et vous dites « Pendant très longtemps, j'ai eu davantage à consoler qu'à être consolé, sans comprendre que consoler les autres était aussi une façon de se consoler soi-même. »
Oui, c'est... Ce rapport à la consolation m'a frappé profondément parce que je me suis rendu compte avec le temps que la relation de tendresse, d'amour, d'empathie, de consolation, comme on voudrait l'appeler, est absolument fondamentale à l'existence d'une société. Que sinon, nous sommes en train d'entrer dans un monde de précarité, de déloyauté, de solitude, de narcissisme, de masturbation, même on peut dire en général. Et que pour sortir de ça, il faut savoir comment nos sociétés vivent le chagrin. Et donc j'ai essayé, comme je fais pour chacun de mes livres, d'essayer de comprendre où va la consolation demain, en partant de ce qu'elle était dans les sociétés les plus fondamentales, c'est-à-dire dans les différentes cosmologies ou dans les différents systèmes religieux, pour comprendre comment on console, en particulier du chagrin le pire, mais ce n'est pas le seul, qui est la mort des autres, qui renvoie à l'absurde même de la condition humaine et à se consoler soi-même de sa propre mort à venir. Mais aussi à parler, essayer de comprendre comment on console de tous les chagrins, que ce soit le chagrin d'amour, le chagrin professionnel, le caprice du chagrin d'un enfant qui n'en a pas offert le jouet qu'il voulait, etc., etc. Et donc j'ai essayé de suivre toutes ces formes, et ça renvoie à un voyage au pays du chagrin et au pays des consolations qui est très intéressant.
Alors on va refaire une partie de ce parcours avec tous les deux. J'aime beaucoup cette phrase que vous avez écrite parce que ça me rappelle une phrase de Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation, où il dit finalement on ne pleure jamais que sur soi-même.
Oui, par définition, l'acte de consoler est un acte empathique, mais l'empathie est toujours suspecte. L'altruisme est toujours suspect. Quand on dit, il m'arrive souvent de le penser, je ne m'intéresse pas à mon propre bonheur, mais à celui des autres. En réalité, je me demande simplement si c'est pas parce que c'est dans le bonheur des autres que je trouve mon bonheur à moi. Et si c'était pas cela qui renvoie inévitablement à un narcissisme inévitable. Et la consolation est encore plus frappante. D'abord parce que consoler les autres, c'est montrer l'importance qu'on peut avoir soi-même pour les autres. C'est donc exister dans le regard des autres, c'est transformer le monde en transformant le chagrin des autres en l'adoucissant. Mais c'est aussi se consoler soi-même de tous les chagrins dont nous sommes tous habités, parce qu'on est tous habités de millions de chagrins. Et en parlant aux autres, par exemple, quand on parle aux autres de... qui ont perdu un être cher, qu'on leur dit c'est pas si grave, il est toujours là. Il y a différentes façons de consoler les gens. Nous avons essayé dans le livre, en interrogeant les gens et en s'exprimant nous-mêmes, de donner les différentes formes de consolation. Il y a une vie éternelle, ça. C'est peut-être pas à l'autre qu'on parle, c'est à soi-même, à propos de soi. Et la dernière phrase de l'essai de ce livre que j'ai écrit, c'est quand on parle de consoler les autres, en fait, on essaye de se consoler en prévoyant la façon dont les autres vont se consoler de notre propre départ. Donc on ne sort pas de soi-même.
Mais ça rejoint quelque chose que vous développez. Moi, il y a une idée que j'aime beaucoup chez vous, que vous dites souvent dans vos conférences, dans vos livres, c'est qu'au fond, on agit toujours par intérêt. C'est-à-dire que l'être humain, toutes ses actions sont toujours motivées par un intérêt quelconque, par quelque chose qui renvoie à lui. Et donc, effectivement, l'altruisme à l'état pur, l'empathie, le désintéressement total n'existe pas.
Disons qu'il y a un altruisme rationnel, il y a un altruisme intéressé qui peut un jour déboucher sur un altruisme totalement désintéressé. Ça existe, même si on peut toujours le ramener à soi. Et aussi parce que je crois que la question fondamentale de l'être humain, de la condition humaine, c'est de donner du sens à la mort et à la vie en même temps. Aucune société, j'avais écrit un jour une histoire de la propriété, et je me suis rendu compte en écrivant que c'était une histoire du rapport à la mort. Parce que la propriété, c'est une façon de lutter contre la mort en se donnant une impression d'éternité par les choses qu'on a. Et dans la consolation, il y a aussi cette question, et toutes les civilisations se la posent. Consoler, c'est donner un sens à la mort, donc à la vie. C'est rendre tolérable l'intolérable, c'est admettre, c'est trouver une façon de rendre supportable ce qui n'est pas, quoi.
Stéphanie, dans le choix de tous ces invités, qu'est-ce qui a été finalement le critère de sélection? Pourquoi vous avez invité ces différentes personnes dont on a donné quelques noms tout à l'heure, et qu'est-ce qui a motivé votre choix? C'est un rapport à la souffrance, à la mort qu'ils ont eue?
Non, on a voulu parler de la consolation individuelle et de la consolation collective. Donc on a voulu avoir des personnages religieux qui viennent nous en parler pour savoir comment les religions consolaient. Ensuite, on a eu envie de parler de ceux qui avaient souhaité transformer leur chagrin en consolation par l'art, comme des écrivains. C'est pour ça qu'on avait invité Laure Adler et puis
Philippe Grimbert,
Eric Orsena, Stéphane Alix aussi, qui est journaliste, qui a fait une grande enquête sur la mort, qui a écrit ce livre sur la mort, qui est aussi une enquête, mais c'est passé par l'acte d'écriture. On a voulu avoir des personnes qui avaient cherché à se consoler différemment de ce qui est proposé par la société en général, ou par l'amitié, ou par l'amour, qui ont fait des expériences avec des plantes amazoniennes. On a voulu un rapport chamanique avec la mort. On a voulu avoir une ethnologue, Anne-Christine Taylor d'Escola, qui est spécialiste des cultures indigènes Jivaro au Quai Branly. On a souhaité avoir des personnes qui nous parlaient de la consolation et de la Shoah, avec Samuel Pizard et le père Patrick Desbois, qui s'occupe de
la Shoah par balle.
La Shoah par balle, les charniers en Europe de l'Est. Voilà. Et puis, les choses se sont faites naturellement au fil des lectures qu'on a eues, des rencontres qu'on a faites. On en a beaucoup parlé avec Jacques et on est arrivé à ces 18 personnes.
Lélie Envar, bonjour.
Bonjour. Oui, ce qui m'a frappé en regardant les différents thèmes et les différentes façons dont ce thème est abordé dans ce livre, c'est que finalement, d'une manière ou d'une autre, la consolation revient toujours à proposer un sens auquel le réel résiste, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est toujours comme si, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, la seule vraie réalité à laquelle personne ne peut se soustraire, c'est la mort. Et puis, il y a aussi les réalités de la souffrance humaine que l'on constate tous les jours. Alors, comme si le mouvement de consolation devait toujours se référer à quelque chose que l'on ne voit pas, mais c'est comme une façon d'éveiller les autres à quelque chose que peut-être on ne voit pas, et c'est pour ça qu'on est sous l'emprise du chagrin. Et la consolation permet de sortir de cette emprise. Est-ce que vous l'avez aussi expérimenté comme ça dans ces interviews que vous avez menées?
Personnellement, j'ai eu le sentiment que la société nous apporte forcément une réparation quand on a vécu un deuil ou un chagrin, et qu'on allait trouver des réponses forcément avec tous nos invités, et quand ils allaient venir dans le studio de France Culture, ils nous apporteraient ces réponses que nous on cherchait, et on s'est aperçu qu'en fait rien ne se passait comme on le voulait, que pour eux-mêmes rien ne s'était passé comme ils l'avaient pensé, que ceux qui avaient souhaité chercher à les consoler n'y avaient peut-être pas réussi de la manière dont cela avait procédé au départ de la démarche de consolation, et que la consolation, c'est comme l'amour, ça n'est jamais là où on l'attend, et que rien ne peut se décider à l'avance, et qu'on ne sait pas si on sera consolé, on ne sait pas si on saura consoler non plus, dans ceux qui ont une action consolatrice que nous avons rencontrée, comme Tanguy Châtel, qui était accompagnant bénévole dans des unités de soins palliatifs, ou Marie de Henzel, et que... finalement, tout reste mystère, et que ça n'est qu'un rapport comme l'amour entre deux personnes, la personne qui est à consoler et la personne qui console.
Et en même temps, il est vrai que chaque fois c'est une surprise, c'est inattendu. D'ailleurs, on a posé à tous nos invités toujours la même question. Comment faites-vous pour consoler? Parce que c'est pour beaucoup d'entre eux, les rabbins, les prêtres, les imams qu'on nous a interrogés, c'est un peu leur métier. Et chaque fois, on a eu des réponses très, très, très différentes. Mais quand on regarde dans le cours de l'histoire... les façons dont les théologies ou les sociétés ont consolé, parce que si une société est incapable de produire une consolation, la société est intolérable, elle n'a pas de sens, elle explose. Donc, toute société doit avoir une capacité à consoler, religieuse ou non. Donc évidemment, dans toutes les premières sociétés, jusque pendant très longtemps, la consolation, c'est la promesse d'immortalité, d'éternité et d'immortalité. C'est ça partout. Donc, vous vivrez dans un autre monde, vous retrouverez dans un autre monde, etc. Donc ça c'est très général et ça se retrouve dans à peu près toutes les cultures. Puis à un moment, évidemment, ça cesse d'être vrai. C'est quand ça cesse d'être vrai, c'est-à-dire que quand beaucoup de gens se mettent à plus y croire, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est là où la consolation devient très difficile, même si avant elle l'était, parce que, évidemment, même... On trouve ça dans le monde grec, il n'y a pas d'immortalité, dans le monde romain non plus, donc il y a dans le monde chinois non plus, donc il y a toute une série.
Dans le monde grec, il n'y a pas d'immortalité, alors ça quand même, je ne peux pas laisser passer ça.
Tous les humains ne sont pas amenés à être immortels.
Quand même, chez Platon, il me semble qu'il y a une idée d'immortalité.
Pour certains, bien sûr. Mais pas tous. Pas tous les êtres humains.
Si, bien sûr que si. Chez Platon, il y a tout le mythe qui nous raconte que les hommes y croient en la métempsychose, les hommes oui, d'air, les hommes s'incarnent, bien ou mal.
Disons que dans il y a des penseurs grecs qui pensent à l'immortalité, à la réincarnation.
Certains autres non.
Donc on peut pas dire que ce soit une croyance globale de la pensée grecque pour tous les êtres humains vivant sur la terre. Même s'il y a en effet l'idée de la réincarnation qui est aussi là.
Ou de l'Hadès, enfin d'un lieu lequel il y a une forme d'ombre, on vit comme un état, un état d'ombre.
Oui, mais vous ne trouvez pas la même chose chez Aristote que chez Platon.
Il y a des visions différentes de l'immortalité, je dirais plutôt.
Donc il y a, quand on sort de cette croyance, et on, par exemple chez les Chinois, c'est un peu ambigu, les ancêtres sont
tout
là,
c'est
pas vraiment une immortalité, c'est une présence. Donc on a, à ce moment-là, il faut trouver autre chose. Il faut autre chose pour consoler, donc la consolation vient de l'idée qu'on a laissé un souvenir, de l'idée qu'on peut laisser une trace, de l'idée du sens que la vie peut avoir. Et donc là, on trouve d'autres formes, qui sont parfois purement matériels. La consolation, c'est ceux qui sont partis ont créé les conditions de donner du sens à leur vie parce qu'ils ont laissé une œuvre, une trace dans l'histoire. Puis on arrive à des moments où aujourd'hui, dans beaucoup de cas, il y a plus rien, quoi. Il y a plus de, c'est le néant. C'est pourquoi aujourd'hui la consolation est si difficile. Parfois même elle prend des allures différentes. Nous avons commencé à travailler, j'étais frappé du mot consoler, console. Il y a deux sens du mot qui sont apparemment sans rapport. Il y a le meuble, la console, et il y a la console de jeu. Le meuble, la console, c'est parce que ça vient de... C'est ce qui vous soutient, donc console. Et la console de jeu, c'est très difficile de trouver la filiation du mot l'un avec l'autre, mais enfin, ça renvoie à la distraction, parce que la distraction est une forme
de soutien, bien sûr.
De consolation. puis il y a aussi une autre forme de consolation moderne qui est purement le precium doloris, c'est-à-dire je suis consolé par la rémunération du chagrin. Donc les assurances fonctionnent de plus en plus comme une...
Oui, ou les dommages et intérêts.
On demande réparation.
Ouais. Plus la société devient marchande, plus la consolation bascule dans la rémunération matérielle. Alors évidemment, au bout de la route, ça transforme chacun d'entre nous et chacun des chagrins en une sorte de valeur marchande, ce qui est évidemment assez cauchemardesque.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie aujourd'hui de Jacques Attali et Stéphanie Bonvincini qui nous parlent de la consolation à l'occasion d'un livre qu'ils ont publié aux éditions Naïf France Culture. Alors je voudrais qu'on prenne un peu la conversation sur les religions. Vous nous avez dit que vous aviez donc interviewé un rabbin, un spécialiste de l'islam, un chrétien, enfin pour essayer de comprendre, un bouddhiste, comment les religions consolaient, parce que vous disiez tout à l'heure, Jacques Attali, que c'est un peu le rôle en grande partie des religions. Marx nous disait que c'est l'opium du peuple. Bah, l'opium, ça console. C'est vrai qu'il y a dans les religions un aspect d'accompagner la souffrance, d'aider les êtres humains à vivre les moments difficiles de la vie, notamment la mort. Alors qu'est-ce qui vous a frappé dans ces entretiens avec ces hommes religieux? Est-ce qu'ils disent à peu près la même chose ou finalement il y a des grandes différences dans la manière de consoler selon les religions?
Les choses sont quand même assez différentes parce que ce qui est commun, c'est certainement le fait qu'ils renvoient à la vie tous. Ils renvoient tous à l'importance de revenir dans la vie, de s'intéresser au vivant.
Face à un deuil.
Face à un deuil. De revenir le plus vite possible dans la vie. Il renvoie aussi tous à la mémoire, à l'importance de ne pas oublier celui qui est parti. Et il renvoie différemment, avec une insistance plus grande dans le christianisme qu'ailleurs, sur la vie au-delà, qui est plus dans le monde chrétien que dans le monde musulman que dans le monde juif, à une consolation par la promesse de retrouver l'autre après. Il crée quand même une grande différence. Puis évidemment, il y a le monde bouddhiste qui, lui, est assez différent dans ce regard. Mais il y a toujours l'idée de la consolation, c'est la vie, c'est ceux qui partent ne voudraient pas qu'on reste triste. Le plus grand chagrin de ceux qui partent, c'est pas seulement de partir, c'est plutôt de faire du chagrin à ceux qui restent.
Mais il n'y a pas besoin d'être croyant pour dire ça.
Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin d'être croyant pour dire ça. Là où il y a besoin d'être croyant, c'est pour croire dans une vie au-delà, dans une immortalité ou dans une promesse d'immortalité, d'où d'ailleurs le fait que la consolation est aussi toujours un rappel dans le monde religieux du jugement dernier. Et donc la consolation parle au vivant. Quand nous avons, dans mon texte, j'ai cité Bossuet, dans Bossuet, on le voit bien, et comme tous ceux qui l'ont avant lui et après lui dans le monde religieux, il parle au vivant. Il leur dit, oui, elle... parlant de Henriette, elle va aller évidemment au paradis parce qu'elle a une vie magnifique. Mais prenez garde, si vous n'avez pas une vie aussi magnifique d'elle, qu'elle, c'est-à-dire une vie fidèle à la foi, vous n'irez pas. Donc en fait, le consolateur est aussi...
Il exhorte.
Est aussi policier, de cette façon. Ouais. Il vous dit, faites attention à votre comportement. Ouais. Et de ce point de vue, celui qui console parle au consolé, non pas de son rapport à celui qui est parti, mais de son rapport à la religion pour lui. Donc, de ce point de vue, le monde religieux fournit en permanence, à cause de la réflexion sur le jugement, une consolation qui est un guide moral.
Stéphanie, quelque chose qui vous a frappé non,
d'ailleurs, dans Jean-Michel de la Comté explique dans les entretiens du livre que les oraisons étaient une manière de construire un mythe et de produire en quelque sorte un portrait robot du personnage et de la conduite idéale à tenir pour effectivement gagner le paradis plus tard. Et c'était ce qui était intéressant. Non, je souriais à votre question, mais il n'y a pas besoin de croire pour dire ça. C'est effectivement ce qui m'a plu dans nos entretiens. Je ne suis pas du tout, comme vous, une spécialiste de l'histoire des religions. Et j'abordais un petit peu en candide ces entretiens avec le grand rabbin de France ou Malek Chebel ou le père Plessis ou Mathieu Ricard encore. Et j'ai trouvé que chacun avait un discours qui était effectivement le même sur toutes ces questions-là. Et qu'il y avait une chose intéressante, c'était les rites qui différaient entre les religions et que c'était important pour chacune des chapelles, entre guillemets, d'avoir des rites différents auxquels croire, et que peut-être si on n'avait pas une spiritualité très forte, on pouvait certainement se raccrocher aux rites, aux rituels.
Oui, donc les rituels sont là pour consoler. Ils sont consolants,
extrêmement consolants
par les symboles, exactement. Par les gestes.
Une procédure extrêmement rigoureuse, oui. Dans toutes les fois. Très différente, en effet, Stéphanie a raison, c'était là-dessus, très différente. Dans le christianisme, ça passe par l'Église, ça passe par toute une série de... Dans l'islam, comme dans le judaïsme, ça doit aller très vite.
Le rapport au corps.
Le rapport au corps, complètement différent.
Le rapport à la famille aussi, se rassembler, partager des repas, se consoler par la nourriture, se consoler, pleurer ensemble, ou au contraire, garder son chagrin pour soi. C'était ça qui était, particulièrement intéressant.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une tradition dans laquelle la mort est mieux acceptée, ça se passe mieux, c'est quelque chose qui est plus intégré à la vie, finalement.
Les bouddhistes.
Sans doute dans le monde bouddhiste, parce que dans le judaïsme, comme dans le judaïsme, c'est la mort est révoltante, épouvantable, insupportable, etc. Dans le christianisme, il y a la consolation par Jésus et par l'espérance de la résurrection, qui est beaucoup plus présente dans le christianisme que dans le judaïsme.
Et dans l'islam aussi.
Et dans l'islam aussi.
La croyance au paradis est très forte.
Très forte. Donc là, déjà, il y a vraiment la consolation par le paradis. Mais je pense que le caractère naturel, c'est dans le monde bouddhique.
L'acceptation.
Dès qu'il y a une croyance forte dans la réincarnation possible...
Tout est acceptation. La mort n'est qu'un passage, et Mathieu Ricard l'exprime de façon avec une délicatesse incroyable et presque convaincante si on n'est pas bouddhiste.
Alors moi, j'ai une chose qui m'avait beaucoup frappé. J'avais discuté avec Arnaud Desjardins, que vous connaissez peut-être, qui est décédé d'ailleurs récemment. On va faire bientôt une émission sur lui. Il était venu nous voir il y a un an. Il m'avait dit une chose qui avait beaucoup frappé lorsqu'il posait la question à des Occidentaux en disant « Quel est l'inverse de la mort ?» Tous les Occidentaux répondent la vie. Quand ils posent la question en Inde, quel est l'inverse de la mort? Tous les Indiens répondent la naissance. La naissance et la mort sont deux moments de la vie, mais la vie englobe tout. Ça répond bien à ce que vous venez de dire sur une différence très très profonde d'approche de ce que c'est que la mort.
Parce que pour nous, la mort est...
Et la fin de tout, c'est la fin de la vie.
Oui, parce que la naissance, c'est un passage, la mort, c'est à la fois un passage et un état.
Voilà.
Oui, et surtout la naissance est un début, alors que justement dans le cycle de renaissance, c'est un moment comme un autre de ce fameux cycle. Mais quand même, ce que vous venez de dire, Frédéric, me fait penser que je ne suis pas tout à fait d'accord que sans foi, on peut faire la même chose. Parce que finalement, les bouddhistes ou les hindouistes qui sont si naturels dans leur rapport à la mort, c'est parce que précisément, pour eux, la mort n'est pas la mort. Donc, ils ont une croyance très, très forte dans le fait que la mort n'est pas la mort.
Non, oui, d'accord. Je disais que pour dire revenez au vivant, revenez à la vie, on n'a pas besoin de croire.
Ah, ça, certainement.
On peut tout à fait athée et dire à quelqu'un qui est mort, mais pense plus à la vie qu'à la mort.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que, étrangement, on n'a pas besoin de consoler des gens qui ont la foi, en vrai.
Théoriquement.
Voilà, il faut qu'on se... alors, d'ailleurs, aussi... vous dites que en Amazonie, par exemple, le mot n'existe pas. Il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas de mot.
Il y a des tas de langues. En effet, en Amazonie, c'est le cas. Mais il y a aussi un cas qui, malheureusement, renvoie à une actualité tragique. C'est qu'il y a différents rapports à la mort et à la consolation nécessaire, suivant que c'est une mort presque naturelle. Un vieillard qui meurt dans le bel âge.
De sa belle mort, voilà. Comme on dit.
Et un enfant de 4 ans qui est assassiné dans une cour d'école. Donc là, la consolation est impossible. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, les morts injustes, comme celle-là ou comme celle diverses, font rompre le rapport avec la religion de celui qui n'accepte pas la consolation ou le sens qu'elle peut donner.
Nelly, justement.
Oui, justement. Alors, nous avons choisi un texte qui est de la tradition bouddhique. Donc c'est un texte qui met en jeu Bouddha et qui parle justement de ça. C'est-à-dire c'est la mort, c'est l'histoire d'une femme dont le fils est mort alors qu'il n'avait que 5 ans. Et voilà, elle vient demander au Bouddha de la consoler ou mieux de lui rendre son enfant. Et donc c'est une histoire, un conte spirituel qui raconte comment Bouddha amène cette femme à regarder la réalité en face. Encore une fois, il ne la console même pas. Il ne cherche pas à la consoler. Il lui montre juste la réalité. Et l'idée qui sous-tend le texte, c'est que si on voit les choses telles qu'elles sont, véritablement, on n'a même plus besoin d'être consolé puisqu'on n'est plus triste.
Je suis contente que vous lisiez ce texte parce que Mathieu Ricard en parle dans le livre.
Un jour, une femme vint trouver le Bouddha et le supplia de redonner la vie à son fils de 5 ans qui venait de mourir. « Assurément, il y avait eu erreur, criait-elle dans sa douleur. Cet enfant avait tout à vivre. Pourquoi lui, plutôt qu'elle, ou quelqu'un d'autre de ses parents ?» Le bienheureux lui répondit « Tu reverras ton fils vivant pourvu que tu mendies pour moi une graine de moutarde et qu'elle te soit offerte par quelqu'un, homme ou femme, qui n'ait jamais pleuré aucun mort sous son toit. » La mère s'en fut donc de maison en maison, de village en village. On lui offrit des graines de moutarde autant qu'elle en voulait, mais elle eut beau marcher, elle ne put trouver demeure que le deuil n'eût jamais frappé. Point de palais, ni de cabane, d'auberge ou de grotte d'ermite qui n'ait un jour abrité un défunt. Elle s'en revint bredouille devant le bienheureux. « Je sais bien, lui dit-elle, à chaque naissance une mort, c'est la loi, et nul n'y peut rien. » Mais sais-tu ce que c'est qu'une mère? Sais-tu ce qu'elle souffre de voir son enfant mourir sur son sein? Mon fils n'a pas assez vécu. Mort à 5 ans. Je dois lui manquer. Il avait tant besoin de moi. Nous allons lui demander s'il désire te revenir, répondit le Bouddha. Femme, j'en fais serment. Si c'est sa volonté, il te sera rendu. Le bienheureux tendit devant lui les bras et l'esprit du mort apparut couché au creux des maisons. Il avait l'air de sommeiller. « Enfant, ta mère te demande. »« De qui me parle-t-on ? » répondit l'enfant. « J'ai vécu tant de vies. Je fus le fils d'une louve et d'une ânesse grise, fils d'une reine aussi, d'une jeune putain, d'une mendiante folle, de 1000 paysannes et de tant d'autres encore. Dis, quelle mère veut que je revienne à elle ? Et pourquoi le ferais-je ? Réponds-lui que ma route est longue et que je ne peux pas m'attarder. » La mère s'en revint chez elle, le Bouddha à sa méditation, l'enfant à son chemin.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre discussion sur la consolation avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini à l'occasion de la sortie de leur livre d'entretien, La Consolation aux éditions Naïve et France Culture. Je voudrais qu'on dise un petit mot, on a parlé des religions, je voudrais qu'on dise un petit mot des écrivains. Puisque vous avez pris plusieurs écrivains en nous disant que donc, certains d'entre eux, à travers l'écriture, finalement essayaient de se consoler de quelque chose ou de consoler les autres, ou les deux?
Les deux, ils ont essayé de se consoler eux-mêmes, ils ont essayé de consoler les autres, ils ont réfléchi sur le chagrin. Je crois qu'il y a tout écrivain qui est confronté à un chagrin, et c'est le cas de plusieurs écrivains qui ont écrit dans d'autres livres, comme qui ont participé à des émissions, comme Eric Orsenna ou Grimbert, essayent de se consoler par l'écriture ou de raconter quelque chose qui est consolateur. Mais il y a évidemment dans la littérature beaucoup de grands textes qui ne parlent que de ça, commençant par Pascal, évidemment, qui... dont le principal sujet, c'est celui-là.
Enfin, Victor Hugo, qui a tant écrit pour se consoler du deuil de sa fille.
Qui a écrit un poème ou prose pour parler de ça, mais aussi...
toutes les contemplations.
Beaucoup de textes de la littérature, de Lamartine, beaucoup de romantiques ont parlé de ça. Shakespeare, dans plusieurs de ses sonnets, Ronsard, évidemment, enfin beaucoup de textes sont sur le rapport à la mort. Et à la consolation. La littérature, elle est dans la mesure où elle parle du chagrin, elle parle beaucoup de ça, mais on le trouve aussi dans les textes récents. Beaucoup de poèmes récents sont sur ça. Je pense que c'est même un des grands thèmes de la littérature. On ne peut pas trouver un seul grand écrivain qui n'ait pas, d'une façon ou d'une autre, parlé de ça. Parfois même, c'est une consolation qui est... adressé à soi-même. Quand Styron écrit Le choix de Sophie, il se console d'être hanté par cette histoire en l'écrivant. Quand Dostoïevski écrit Crime et Châtiment, il est animé par la question de la façon dont on peut se consoler de la violence et de la mort. Donc il y a, je pense que c'est la question centrale de la littérature avec l'amour, et les deux étant évidemment liés. Et puis quand les deux se rejoignent, c'est-à-dire quand c'est la consolation d'un chagrin d'amour, alors là évidemment on est au sommet de cela, et ça on le trouve évidemment dans un très grand nombre.
Oui, bien sûr, la perte de la bien-aimée, on le retrouve
tout le temps.
Et vous-même, Jacques Attali, est-ce que il vous arrivez d'écrire un livre pour essayer de vous consoler d'un gros chagrin, d'une grande souffrance, de la perte d'un être cher?
Non, parce que j'ai fait pour l'instant très attention à ne rien écrire. C'est peut-être la première fois que j'écris quelque chose où je parle un peu de moi dans ce texte sur la consolation. Écrire est en soi un inconsolateur en tant que tel. Pour moi, la consolation personnelle passe par la musique, par jouer de la musique ou entendre de la musique. Faire de la musique, en tout cas, je crois que la musique a une dimension consolatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois tendresse, elle est beauté, elle est transcendance, elle est tout ça. Et puis parfois on attache à certaines œuvres une dimension consolatrice qui fait que quand on l'a entendue et qu'elle a été consolatrice à un moment, elle devient fonctionnellement consolatrice. Elle redevient consolatrice quand on a besoin. Par exemple, c'est le cas du concerto de Rachmaninov qu'on vient d'entendre, qui pour moi, pas forcément pour tout le monde, a une version, une vertu, une dimension consolatrice. Mais écrire pour moi n'est pas
Cas pas consciemment.
Non, pas consciemment.
Ah vous, oui, je crois que pour revenir à la littérature, ça me fait penser à cette phrase de Pascal Quignard, j'écris pour dire ce que je ne sais pas encore. Et ça ne s'applique pas à la consolation quand il en parlait, mais je trouve que ça correspond bien à ce qu'on a entendu au cours de ces entretiens et de ces émissions. C'est que tous ceux qui ont eu cet acte d'écriture, je ne crois pas ils ont certainement peut-être cherché à se consoler quand ils ont commencé leur livre, mais je crois qu'ils ne savaient pas ce qu'ils y trouveraient dans l'acte d'écriture. Et personne n'y a trouvé la même chose d'ailleurs. Et je ne sais pas si chacun oserait dire que ça l'a consolé.
Et pouvez-vous citer beaucoup d'auteurs qui ont une connotation tragique, je dirais, comme si... Évidemment, dire la tragédie, c'était une façon de se consoler de la situation tragique de l'homme. Mais j'aimerais avoir votre sentiment aussi sur le fait que Il me semble que le rire aussi est une façon de consoler. La comédie est peut-être une des grandes consolations possibles.
D'abord, il y a plusieurs civilisations que je cite dans mon essai qui sont consolatrices. Beaucoup de civilisations, en particulier en Asie, sont des civilisations qui ont besoin du rire comme une forme absolue. Il faut rire pour que les gens se... Bon, même quelqu'un qui a du chagrin doit lui faire des chatouilles dans certaines civilisations.
Les Japonais.
Au Japon. Donc, parce que c'est très important de ne pas être triste. Mais c'est vrai que le rire a ce qui rend aussi de cette façon la distraction, qui est une sorte d'échappatoire. Et c'est vrai aussi qu'il y a le rire du condamné, le rire de celui qui est une sorte de défi à l'égard du chagrin qui est très, très important. Le rire, c'est le retour aussi de la vie.
Tout à fait. Et je trouve que le rire, c'est une ruse très subtile qui nous permet de nous mettre de la distance par rapport au tragique de l'existence. Et je pense que si les Juifs ont autant d'humour, c'est parce qu'ils ont longue expérience de la douleur, de la souffrance.
L'humour juif, c'est une résistance contre le chagrin. Et la résistance est une forme de consolation, clairement.
Et est-ce que vous pensez que, par exemple, la façon dont Benigni a traité de la Shoah dans son livre « La vie est belle », justement, où il essaye de consoler son fils par le rire au sein même des camps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué ou vous trouvez au contraire que c'est une approche ?
Non, ça ne m'a pas choqué. C'est une merveilleuse réflexion sur la façon d'épargner la douleur, plus que de consoler, d'épargner, de rendre les choses virtuelles. Mais en même temps, il y a des grands écrivains pour qui le chagrin est une forme d'expression fondamentale. On parle parfois de la princesse de Clèves, c'est un grand livre sur la consolation. Autant que...
Quoi qu'on pense. Puisqu'on vient de parler de la Shoah, c'est un aspect aussi présent dans votre livre. Vous avez interviewé des personnes qui ont vécu la Shoah, comme Samuel Pizard, ou d'autres qui s'y sont beaucoup intéressés, comme le père Patrick Desbois, qui recherche effectivement toutes les victimes juives dans les pays de l'Est. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans ces entretiens sur la Shoah ? Est-ce qu'on peut se consoler lorsqu'on a vécu une tragédie pareille?
Oui, j'invite infiniment les lecteurs qui voudront bien lire ce livre à lire vraiment attentivement les textes du rabbin Bernheim, du rabbin de France, le texte du père Desbois, qui passe sa vie à essayer de comprendre et de donner un nom, de nommer, et le texte absolument magnifique de Samuel Pizard, qui raconte sa vie et comment la consolation vient d'affronter l'horreur et en même temps de petits signes, des petits souvenirs, des choses qui lui restent. Mais Stéphanie peut compléter parce qu'elle a mené elle-même ces entretiens.
C'est vrai que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Samuel Pizard pour l'entretien qu'on retrouve dans le livre et qu'il a de nombreuses heures. Et que...
Rappelez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Pizard,
ce qu'il a vécu. Pizard était le plus jeune rescapé de la Shoah. Il avait à peine 15 ans quand il est sorti des camps. C'est l'auteur du Sang de l'espoir qu'il a publié en 1975. Et c'est un grand avocat international, conseiller du président Kennedy et qui a eu une résurrection vraiment en Australie où il est parti très jeune. Il est resté en Allemagne durant une année, un peu plus d'une année, à la sortie des camps, complètement livré à lui-même sur une moto qu'ils avaient volée à un officier de la Wehrmacht avec deux copains. Et il a été récupéré d'abord par son oncle Léo Sauvage, qui était grand journaliste, grand reporter au Figaro, qui a décidé de l'envoyer en Australie, une autre terre, pour lui donner une seconde chance. Et il a été sauvé par des gens qui se sont occupés de lui et qui lui ont fait faire des études et fait faire du sport. C'est par le sport qu'au départ, la résilience est arrivée. Et en répondant à mes questions pour l'entretien, il s'est rendu compte que finalement, il y avait un sujet, la consolation, qui était peut-être encore complètement vivant, vivace en tous les cas, et qu'il avait besoin de reparler de cela, d'y réfléchir. Et il a fait un texte au départ, il a répondu à mes questions, et puis il me rappelait, il me disait « En fait, je ne peux pas le dire comme ça, en fait, je ne souhaite pas le dire comme ça, en fait, tel mot est beaucoup moins important que tel autre mot. » Et il est arrivé un texte, je crois, majeur sur la consolation et sur ce que, aujourd'hui, la façon dont lui, à plus de 80 ans, aujourd'hui, tout ça est encore complètement présent, absolument pas cicatrisé, à mon sens.
mais en même temps avec une douceur, une compréhension du monde, un amour de l'autre qui est une vraie... Son texte est une consolation.
Un amour de l'autre et de la vie.
Et de la vie qui est
Est-ce que je peux me permettre lire un petit texte de Samuel. Quand Stéphanie lui demande « Quelle consolation trouvez-vous aujourd'hui ?» et il répond « Franchement, je ne les cherche plus, mais parfois elles viennent toutes seules. Lorsque je suis dans un restaurant et que je vois des lentilles sur la carte, c'est automatique, je les prends parce que ma grand-mère en faisait des plats fumants et parfumés. Évidemment, quand les lentilles arrivent sur la table, je me sens un peu ridicule, mais c'est ainsi, je ne peux pas résister. C'est une façon de communiquer avec ma grand-mère adorée, disparue dans les fours de Treblinka. »
Lélie Anvar.
Oui, alors justement, En fait, en préparant cette émission, j'ai choisi un texte de Etty Hillesum qui me semble avoir de très très belles pages sur cela, sur la façon dont on peut, opter pour la vie même dans les situations les plus tragiques et dans un monde qui est absolument rempli de ténèbres, comme était le sien, donc en 1942, quand elle écrit son journal et que les Juifs sont déjà pourchassés en Hollande, et bientôt elle va partir pour le camp de Wasserburg et finalement mourir à Auschwitz quelques mois plus tard. Et voici donc ce qu'elle écrit dans ce temps de ténèbres qui, je trouve, est toujours une source d'inspiration pour nous aujourd'hui, quand on a peut-être des moments de désespoir devant ce que l'on voit se dérouler sous nos yeux. Les détresses et les solitudes nocturnes d'une humanité souffrante traversent soudain mon humble cœur et l'emplissent d'une douleur nauséeuse. Quel fardeau vais-je donc me mettre sur les épaules cet hiver? Après la guerre, je veux parcourir les différents pays de ton monde, mon Dieu. Je sens en moi ce besoin de franchir toutes les frontières et de découvrir le fond commun à toutes les créatures, si différentes et si opposées entre elles. Et je voudrais parler de ce fond commun d'une petite voix douce, mais inlassable et persuasive. Donne-moi les mots et la force. Mais d'abord, je voudrais être sur tous les fronts et parmi ceux qui souffrent. N'y aurais-je pas aussi le droit de m'exprimer? C'est comme une petite vague qui remonte toujours en moi et me réchauffe, même après les moments les plus difficiles. Comme la vie est belle. C'est un sentiment inexplicable. Il ne trouve aucun appui dans la réalité que nous vivons en ce moment. Mais n'existe-t-il pas d'autre réalité que celle qui s'offre à nous dans le journal et dans les conversations irréfléchies et exaltées de gens affolés? Il y a aussi la réalité de ce petit cyclamen rose indien et celle aussi du vaste horizon que l'on finit toujours par découvrir au-delà des tumultes et du chaos de l'époque. Donne-moi chaque jour une petite ligne de poésie, mon Dieu, et si jamais je suis empêchée de la noter, n'ayant ni papier ni lumière, je la murmurerai le soir à ton vaste ciel. Mais envoie-moi de temps en temps une petite ligne de poésie.
Choisi ce texte d'Etty Hillesum. Moi, j'ai toujours été bouleversé par cette femme qui vivant le pire de l'horreur, continue d'avoir cette joie de vivre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, parce que l'autre fois, j'ai eu par exemple une discussion avec un ami à qui je disais, mais au fond, on porte le regard qu'on a sur le monde vient vraiment de ce que nous sommes, et on peut voir le monde beau, le monde triste, selon ce que l'on est, selon le regard que l'on porte. Il me disait, non, mais c'est pas vrai, un génocide, ça reste un génocide. Je dis, oui, mais au milieu du génocide, certains peuvent être totalement désespérés, et d'autres peuvent encore trouver une raison d'espérer, ou une raison d'être heureux. Et ça montre à quel point, finalement, c'est la manière dont nous réagissons aux événements qui est essentielle dans la vie.
Je crois qu'on peut retrouver ça dans le texte de Samuel Pizard, c'est que la survie, en tous les cas peut-être ceux qui ont, on ne peut pas en faire une généralité bien sûr, mais que ceux qui ont survécu, ceux qui s'en sont sortis, sont ceux qui ont espéré, ceux qui ont continué à rire, ceux qui ont cru, qui n'ont pas cru sur tout ce qu'on leur racontait ou pas cru qu'il serait impossible d'en réchapper et qui ont gardé cette joie de vivre.
Alors il y a aussi une chose où je...
Ce que je veux dire d'ailleurs, ce que, si vous me permettez de préciser sur ce livre, c'est que ça n'est pas un livre triste. La consolation, nous n'avons pas voulu parler de la mort, du deuil, etc. Le thème est vraiment la consolation, avec tout ce que ça a de délicat. Et nous n'avons pas voulu faire un livre sinistre, triste. Nous avons vraiment voulu faire un livre qui s'est fait naturellement tout seul, un livre d'espoir. Voilà, pour ceux qui pensent qu'ils sont inconsolables, j'espère.
Alors justement, vous avez interviewé aussi des gens dont le métier est de consoler. On a parlé des religieux tout à l'heure, mais il y a aussi des psychologues. Donc je vois Marie de Henzel, Tanguy Châtel. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là qui ne sont pas dans un discours religieux? Comment est-ce qu'on
L'essentiel de leur message, c'est il faut accompagner jusqu'au bout ceux qui vont mourir, être près d'eux, être là. Marie de Henzel a cette phrase, être là, qui est très importante.
Au-delà de ça,
la présence,
la qualité de la présence,
être là, la qualité de la présence, être là, montrer qu'on est, qu'on accompagnera, et donner surtout la possibilité à ceux qui vont partir, qui savent qu'ils vont partir, qui s'y préparent, leur donner la possibilité de dire ce qu'ils n'ont pas pu dire, de s'ouvrir, de voilà, d'être eux-mêmes jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans peut-être la philosophie. Bouddhiste, c'est cette préparation à la mort. Finalement, le bouddhisme, c'est toute sa vie, on se prépare à la mort. C'est ce qu'explique Mathieu Ricard, qui est extraordinaire d'ailleurs. On est conscient qu'on va mourir, et contrairement à la religion catholique, par exemple, où peut-être la mort est plus taboue, on n'en parle pas, eux, ils parlent de la mort tout le temps, ils s'y préparent, et ça a l'air de fonctionner.
Ils suivent Socrate qui disait que philosopher, c'est justement apprendre à mourir.
Apprendre à mourir.
Toute une vie, il faut une vie pour apprendre à mourir.
Vivre, c'est apprendre à mourir aussi.
C'est Montaigne.
Des grands rabbins dans le.
Mais c'est Montaigne qui a formulé ça.
Donc on a cette leçon là de deux qui côtoient la mort effectivement
et
comme
donc,
un métier.
Ce que vous ressentez, c'est que nos sociétés ont complètement refoulé la mort. C'est un grand tabou et qu'au fond, ça la rend d'autant plus angoissante, douloureuse et pour ceux qui meurent et pour leurs proches.
Exactement. Et que justement, essayer de se départir de cette angoisse qu'on amène, nous vivants, en tout cas ceux qui vont survivre à ceux qui vont partir, cette angoisse qu'on amène, essayer de s'en départir parce qu'on angoisse ceux qui vont partir et qui parfois sont beaucoup plus près que nous.
Voilà, et ils sont beaucoup plus angoissés de voir notre angoisse, alors qu'eux-mêmes sont dans un chemin déjà d'acceptation.
Comme avec des enfants, lorsque vous avez peur, vous leur faites peur.
Oui, et d'ailleurs, on le voit, les enfants qui sont condamnés, qui sont malades, ce sont souvent c'est plus les parents qui doivent être consolés, parfois par leurs propres enfants en train de mourir, que les enfants eux-mêmes.
Exactement.
Cette émission touche à sa fin. Lélie, vous vouliez nous présenter deux, trois petites choses pour l'agenda culturel?
Oui, absolument. D'une part, je voudrais parler d'une intervention en fait autour de Raphaël Antoven au Théâtre de l'Odéon. En fait, c'est une série qui s'appelle « Les philosophes amoureux ». Ça se passe à l'Odéon et c'est en partenariat avec France Culture. Et ça parle évidemment d'amour. Et qu'est-ce qu'il y a de plus consolant que l'amour dans la vie? En tout cas, c'est Raphaël Antoven qui s'entretient avec un spécialiste, un philosophe. Enfin, et il y a des acteurs de l'Odéon qui lisent des textes en relation donc, avec le thème. Alors la prochaine séance, ce sera le samedi 14 avril. Le sujet, c'est Socrate et Alcibiade. Et c'est Nicolas Grimaldi, que nous avons reçu ici il y a quelques semaines, qui répondra aux questions de Raphaël Antoven sur cette relation, cet amour qu'il y avait entre Socrate et Alcibiade, de la question de l'amour chez Platon en général. Nicolas Grimaldi, donc, qui vient de publier chez Grasset un livre intitulé « Métamorphose de l'amour ». J'ai assisté à plusieurs de ces rencontres à l'Odéon les dernières semaines, et vraiment, je recommande à nos auditeurs, c'est très très agréable. On apprend beaucoup de choses et en même temps, on écoute ces très beaux textes choisis par Raphaël Antoven. Donc, c'est le samedi 14 avril à 15h au Théâtre de l'Odéon. Et puis, la deuxième chose que je voulais signaler, c'est la naissance d'une nouvelle revue qui s'appelle tout simplement « Là-bas ». Et c'est une revue qui est la première revue consacré exclusivement...
Là-bas, ça s'écrit comment?
Là-bas, comme là-bas.
Comme là-bas, pas, voilà. Pas comme des abats.
Ah non, non, pas du tout. Là-bas, ailleurs. L'ailleurs qui est en même temps ici, puisque c'est une revue...
Mais à la radio, on ne sait pas.
Hein. À la radio, il faut toujours se méfier, vous avez raison. En tout cas, c'est vraiment une revue qui fait le point sur l'aide humanitaire dans le monde, sur l'action des ONG, les aides humanitaires. Donc, ils font vraiment le point, ils parlent de différentes actions qui sont menées. C'est très intéressant d'abord de voir en concentré tout ce qui se passe. Et pour ce premier numéro, il y a un dossier sur Haïti, donc la situation qui reste absolument tragique en Haïti. Donc, il parle de l'aide humanitaire, bien sûr, de toutes les actions qui sont faites, mais aussi des difficultés rencontrées par les gens qui, de par le monde, essayent de consoler de leur souffrance cette humanité qui subit quelquefois des tragédies, parfois naturelles, parfois produites par d'autres hommes.
Merci Lélie. Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.
Téléchargez cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Jean-Paul Decy, chef d'orchestre, violoncelliste, compositeur et philosophe pour parler de la musique sacrée. Tout de suite, le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.